français entre les poteaux. Christophe Cessieux.
Salut à tous. Le rugby français nous offre à voir depuis une dizaine de jours maintenant une série bien médiocre intitulée « Mais qui a donc crevé la bulle ?» Et dans les rôles principaux, un président sur les nerfs, un sélectionneur baladeur et un vice-président la tête sur le billot. Mais où s'arrêtera donc cette série ? Les poteaux scénaristes vous donneront quelques pistes dans un instant. Alors c'est vrai que nous aurions préféré assister ce week-end à un nouvel épisode du tournoi Destination avec la France dans le rôle principal, mais ce triste week-end nous aura quand même offert un petit bonheur, celui de voir l'Angleterre une nouvelle fois battue. Pourquoi tant de joie à l'idée de voir la rose flétrie ? Pierre Amiche nous en parlera dans la boîte à gifs. Nos poteaux, les voici, les voilà. Denis Charvet est dans la place.
Oui, je suis là.
Salut Denis.
Bonjour.
Un week-end tendu, un vendredi tendu.
Ça va, tout va bien.
Oui,
oui.
T'es rentré dans l'ordre ?
Oui, t'es rentré dans l'ordre.
Parfait. Manu Massicard, le patron de Midi Olympique, est dans la place lui aussi. Salut Manu.
Salut les amis.
Avec une magnifique lune ce matin de Midol. Vraiment un beau titre.
Le ministère amer, effectivement.
Exactement. Notre chef enquêteur spécialiste S-Bull, Jeff Patureau, est lui aussi avec nous.
Bonjour messieurs.
Salut Jeff.
Salut.
Ainsi que notre responsable des gifles et des baffes en tout genre, Pierre Amiche.
Bonjour à tous.
Messieurs, il est temps d'entrer dans la mêlée pour notre feuilleton, mais qui a donc crevé la bulle ?
Depuis la semaine dernière, à Marcoussis, on parle plus Covid que rugby.
Effectivement, le virus est rentré dans cette bulle. Nous savons encore une fois qu'elle n'est pas imperméable.
Tout a commencé vendredi dernier. 4 cas de Covid sont détectés, dont le sélectionneur Fabien Galthié.
Nous, au ministère des Sports, nous avons autorisé les joueurs à voyager. Nous avons donné une autorisation et nous pouvons aussi retirer cette autorisation.
Selon nos informations, ce serait Fabien Galthié qui aurait fauté en perçant la bulle sanitaire.
Vous savez, il suffit d'une poignée de porte infectée pour que la contamination se propage. Donc, personne ne peut savoir.
Le patient zéro, il a changé 3 fois.
Et moi, l'Italie, le premier, le dimanche matin, j'ai été me promener dans la rue, j'ai mis le masque et j'ai croisé personne.
L'exemplarité en management, ça existe. Je suis désolé, le Covid manager de la Fédération française de rugby, il doit donner l'exemple.
Moi, j'ai assisté à la réunion Conseil Destination, mais j'ai eu les félicitations d'accord Destination.
Santa Barbara ou Dallas, c'est au choix. Feuilleton bien moisi, comme on ne les aime pas, et qui a donc connu de nouveaux rebondissements, sans que l'on sache encore qui a commis la faute et fait entrer ce maudit virus au sein des équipes de France, et non pas d'une seule équipe de France. Une affaire prise donc très au sérieux par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui entend en savoir plus et compte pour cela sur l'enquête diligentée par la Fédération française. Alors Jeff, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette enquête, et notamment sur ses conclusions qui devraient être rendues en milieu de semaine, c'est ça ?
Ouais, bah pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, puisque c'est une enquête interne malheureusement, puisqu'on aurait bien aimé qu'il y ait un peu plus de transparence, d'ouverture pour que ce soit fait à l'extérieur. C'est une enquête interne dirigée par Christian Dulin, le secrétaire général de la Fédération française de rugby, avec deux médecins à ses côtés pour déterminer quelles sont les responsabilités, s'il y a eu des fautes. Et évidemment, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Ça reste un petit peu un mystère. Vont-ils utiliser les caméras qui sont à Marcoussis ? Ça paraît un peu improbable. On a interrogé Florian Gris hier. On l'entendait juste il y a quelques instants. C'était l'opposant de Bernard Laporte. Voilà ce qu'il nous disait hier sur l'enquête.
L'urgence, c'est de faire une enquête. Mais cette enquête, elle doit être indépendante. Tout le monde comprendra extrêmement facilement qu'il ne faut pas demander aux personnes qui sont potentiellement suspectées de faire eux-mêmes l'enquête. Maintenant, s'il y a la légèreté, la négligence, pour ne pas dire l'incompétence, on ajoute le mensonge, là, ça devient grave. On peut aller jusqu'à une démission du Covid manager Serge Chimon si, effectivement, l'enquête indépendante révélait que... En plus de l'incompétence ou de la légèreté, il y a du mensonge. Ça serait inacceptable.
Rappelons que lundi dernier, la ministre Roxana Maracineanu avait pris son téléphone pour appeler Bernard Laporte. Mercredi, elle lui a envoyé un courrier, un mail pour lui demander d'ouvrir une enquête interne. Vendredi, elle a haussé le ton. Et désormais, c'est véritablement la Fédération française qui est dans le viseur du ministère.
Alors, messieurs, croyez-vous en cette enquête ? Pensez-vous qu'elle permettra de connaître le fin mot de l'histoire ? Denis, une enquête diligentée par la FFR avec uniquement des gens de la FFR. C'est vrai que.
Ça ne paraît pas du tout.
Le choix franc ou pas franc ? Tu veux que je te raconte une saucisse ? Non, je pense que... Moi, je pense d'abord une enquête, il aurait fallu faire une enquête avec des personnes extérieures, évidemment, que ce soit le ministère qui commandite une commission, peut-être, qui enquête au sein de la fédération. Après, ils rendront ce qu'ils vont y rendre.
Ouais, Manu ?
C'est pas une enquête, ce sont des auditions, puisque d'après ce qu'on a compris et selon nos informations, il n'y aura pas exploitation des bandes vidéo de Marcoussis. Le ministère ne l'a pas demandé et la fédération n'a pas l'intention de le faire. Il n'y aura pas exploitation du registre d'entrée du livre de bord de Marcoussis pour savoir qui rentre et qui sort. Pour les auditeurs, à chaque fois qu'on rentre à Marcoussis, on présente patte blanche, on montre carte de visite, carte de presse et papier d'identité.
Carte de visite, c'est que pour toi, Manu. Hein.
Ouais, c'est ça, pardon.
C'est ça, les stars.
Merci, Jeff, le tac.
Je t'en prie.
Depuis toujours, hein, c'est pas nouveau, ça n'est pas dû au Covid. Donc, il y avait moyen d'enquêter là-dessus, sortir ce livre de bord. Donc, ce sont des enquêtes, des auditions qui ont été menées depuis ce matin, lundi, jusqu'à demain soir. C'est 2 jours pour mener une véritable enquête et savoir exactement ce qui s'est passé au cœur de la bulle. Il y a quand même de grosses incompréhensions. Bernard dit, j'ai eu les félicitations des destinations. Oui, pour le plan qui avait été mis en place pour la gestion du Covid. Reste à savoir si ce plan a été appliqué véritablement. On a l'impression que non. Et à vouloir, comme le dit Denis, gérer cette affaire en interne, on prend le risque de faire planer ce sentiment d'omerta, alors qu'un devoir de transparence aurait été bénéfique. Et
pour tout le monde, pour la fédération,
bien sûr,
pour tout le monde.
Bien sûr, pour l'équipe de France, pour la fédération, pour Bernard Laporte en tant que président. Là, aujourd'hui, il prend toute la pression sur lui. S'il y avait eu faute, on aurait pardonné. Si on a le sentiment qu'il y a tromperie et des choses qui nous sont cachées, forcément que le public ne pardonnera pas.
Après, est-ce que Bernard veut protéger des hommes? C'est la question.
Puis attendons les résultats de l'enquête aussi. Parce que pour l'instant, tant qu'on n'a pas les résultats de l'enquête, on peut pas dire que c'est une enquête bâclée ou une auto-enquête.
Oui, bien sûr.
Attendons quand même de voir ce que ça donne. Ça se trouve, il y aura vraiment des noms, des informations qui vont sortir. Et on jugera peut-être dans le courant de la semaine, voir si cette auto-enquête, qui est quand même une primauté française, aura porté
ses
fruits.
C'est très rugby, hein.
Ouais,
on
c'est ça.
Linge sale en famille. Mais aujourd'hui, il est plus le temps de laver notre linge sale en famille.
L'auto-enquête, c'est génial.
Denis, est-ce qu'il sera plus transparent que l'audit de Serge Chimon sur Guy Noves?
De quoi?
Est-ce qu'on aura plus d'infos que sur l'audit réalisé?
Ouais, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
Moi, bah, personne.
Voilà. Ce que vient de dire Denis est important. Bernard, est-ce qu'il veut protéger quelqu'un? On sait très bien que... Enfin, Denis, c'est à toi de nous répondre.
Ah, je ne sais pas,
tu le connais parfaitement, Bernard.
Tu as parlé à Bernard?
Qu'il
oui, bien sûr, j'ai parlé à Bernard. Mais Bernard,
il fait... qu'on ne connaît pas.
Non, Bernard, il fait confiance aux hommes. Bon, Bernard, il est responsable en tant que président, on est d'accord.
Là, il s'est mis dans la mouise tout seul en protégeant ses hommes, quelque part.
Oui, mais parce
dans l'histoire,
mais parce que Bernard est comme ça, il croit à la bonne foi des gens, en règle générale, c'est pas de la naïveté, mais c'est il a ça en lui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il pense que les gens lui mentent pas, ben il les croit. Ce qui veut pas dire que ces gens-là ne lui mentent pas.
Ça aurait été si simple de dire la vérité au départ. Personne ne peut reprocher à quelqu'un que le virus soit entré quelque part. Effectivement, il est entré dans les plus hautes instances politiques du monde.
Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Moi, il y a l'incompréhension totale de ne pas avoir fait amende honorable.
Bah oui.
Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas dit, tout simplement. Mais sûrement qu'il y a eu une erreur, et sûrement qu'on a fait une entorse au règlement. On va voir, on va regarder. Et là, personne n'aurait rien dit.
Ouais. Et tu sais, on en est au quatrième... foyer épidémique, il n'y a pas non plus de hasard, malheureusement. Ouais. Oui, c'est une erreur. Tu le reconnais, tu passes à autre chose.
Bien sûr. Alors, plusieurs personnages sont donc montrés du doigt. On pense notamment au sélectionneur qui aurait percé la bulle en sortant à plusieurs reprises de Marcoussi, fait aujourd'hui avéré, hein, Jeff, puisque après avoir démenti l'information, Bernard Laporte l'a finalement reconnu hier soir dans Stade 2. Autre membre éminent de la Fédé dans l'œil du cyclone, Serge Chimon, vice-président et manager Covid. On ne peut pas dire que cette dernière mission a été menée avec beaucoup de réussite. Simon, le mal-aimé du rugby français, sur lequel tout le monde tombe à bras raccourcis, Jeff, au point de se demander s'il va pouvoir survivre à cette affaire et conserver son poste de vice-président.
C'est vrai que Serge Chimon est encore plus clivant que Bernard Laporte pour le monde du rugby. Il faut rappeler qu'il est vice-président de la Fédération française de rugby, bientôt président délégué, qu'il est aussi Covid manager. Donc c'est lui qui doit savoir comment on applique ce protocole Covid de tournoi destination. Et Manu le disait, le souci c'est que les autres équipes de France ont été touchées ces dernières semaines. Ça concerne les moins de 20 au Portugal, les joueurs du 7 et désormais le 15 de France. Il est sur le devant de la scène et les opposants, encore une fois, notamment Florian Gris, le surveille de près. On écoute Florian Gris.
L'exemplarité en management, ça existe. Je suis désolé, le Covid manager de la Fédération française de rugby, il doit donner l'exemple. Bernard Laporte, il doit donner l'exemple. Il ne doit pas s'énerver quand on lui pose des questions. Il ne doit pas rejeter la faute sur menacer ou dire qu'on connaît les responsabilités des uns et des autres comme ça a été fait sur votre antenne. Je pense que la responsabilité, c'est d'assumer.
Ce qui a peut-être fait beaucoup de mal à Serge Chimon, c'est les déclarations dans Midi Olympique, Manu, avec le patient zéro, on le connaît, c'est le préparateur physique.
Alors messieurs, Galtier, Simon et d'autres pourraient être mis à mal par cette affaire, devoir quitter leur poste. Est-ce que là aussi vous y croyez?
Non.
Denis, non plus.
Moi je pense qu'il n'y aura rien. Après, les conséquences directes, c'est d'avoir de perdre la confiance qu'avait instauré Fabien dans ce groupe. La vérité aujourd'hui, on ne sait pas comment ils vont sortir de cette relation entre le sélectionneur et les joueurs. La vérité, elle est que là, entre les joueurs, ça se passe très très bien, super bien, il y a un groupe qui est formidable, il n'y a aucun problème, mais c'est la confiance. Là, il y a eu une espèce de trahison, aujourd'hui, c'est ce ressenti de trahison, alors, qui n'est peut-être pas justifié, mais il y a un ressenti de trahison.
Moi, ouais, franchement, je pense pas non plus, je pense que, à moins que le ministère et Roxana Maracineanu se fâchent vraiment très très fort et tout rouge, mais l'équipe actuelle, que ce soit le staff ou les joueurs, ils ont un joker énorme qui sont les résultats sportifs. Mm-hmm. Pour l'instant, c'est un joli parapluie qu'ils peuvent brandir. Et puis, le grand public, au fond, il s'en fout peut-être un peu de savoir ce qui s'est passé. Le rugby va passer pour un sport d'idiot.
Français, je pense pas, Pierre.
Le sport français, non, mais le grand public, je pense qu'ils ont quand même, globalement, ils s'en foutent, en fait.
Ah, mais, carrément.
C'est pas très important. Oui. On va juste passer pour des cons.
L'équipe de France gagne.
Mais l'équipe de France gagne. Et puis, il faut quand même relativiser. Oui, il y a eu un truc assez gros.
Mais là où je suis pas d'accord avec moi, c'est que les joueurs sont pas impactés.
Il n'y a pas eu de mort.
Oui, mais les joueurs sont pas impactés. Oui, mais t'as la légitimité après. Je suis désolé.
Mais toi, tu me parles du sportif, Denis.
Je te parle de l'image en général. En général,
je suis pas convaincu que les gens.
Mais écoute, autour de moi, ou tu sais pas autour de toi, moi, il y a que des gens qui me posent des questions que j'ai pas mis qui me posent.
Mais sur pourquoi sur c'est bon, pour des
mais des vrais amoureux du rugby, si tu
oui,
veux,
mais
c'est pas
le grand public,
c'est pas neutre.
Mais, oui,
c'est,
mais c'est les pas gens qui regardent France Télé les matchs de l'équipe de France, ils s'en foutent.
Le sportif ne sera pas impacté. L'image de notre sport plus globalement et de ses dirigeants va encore en prendre un coup, et on va parler d'amateurisme en l'état sur la gestion.
Ça, c'est pas nouveau. Hein.
Oui, ça va encore ressortir. Comment va le groupe va certainement avoir besoin de clarté et d'explication de Galtier. Si oui. Galtier est capable de passer ce moment-là, il peut transformer la chose et s'il assume et globalement, si autour de la Fédé, on dit « Ok, on a fait des erreurs, maintenant on repart tous ensemble et on essaie d'oublier ça pour en faire un point fort », tu peux rebondir.
Oui, mais
il faut gagner contre l'Angleterre. Si tu gagnes pas contre l'Angleterre, t'as le feu.
Oui.
Ça n'empêche pas. Reste à savoir comment Serge Simon lui-même en sortira. Là-dessus, j'ai pas de réponse parce que ça dépendra de ce que va montrer l'enquête.
Exactement. Jeff, tu as pu t'entretenir avec certains joueurs du 15 de France sous évidemment le sceau du secret, puisque Bernard Laporte a demandé à tout le monde de tenir sa langue. Quel est le sentiment de la plupart des joueurs du 15 de France? Est-ce qu'ils se sentent trahis par Fabien Galtier?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des véritables tensions depuis la semaine dernière, et c'est vrai que les sorties médiatiques de Bernard Laporte n'ont pas franchement arrangé les choses. Vendredi matin, il avait pris la parole pour recadrer le groupe, que ce soit les joueurs et le staff, en disant Fabien Galtier, lui, fera la Coupe du Monde, les autres, si vous continuez à parler, vous faire attention à votre place. C'est pas franchement, ça incite pas franchement à l'optimisme et à la confiance. Et gros sourire, tout le monde a peur, voilà ce qu'on me disait ce matin, peur de se faire taper sur les doigts, peur de perdre sa place en sélection, peur aussi de trinquer pour un autre. Et certains estiment que leur patron, le sélectionneur, n'a pas été exemplaire et que ce n'est pas à eux d'en assumer les conséquences. Peut-il y avoir une cassure entre Galtier et son groupe? C'est une possibilité, il va falloir trouver les bons mots, les bons termes dimanche lorsqu'ils vont tous se réunir. Et comme disait le Manu, si ça se passe bien contre l'Angleterre, ouais, ce sera du passé. Si ça se passe mal, on n'a pas fini d'en parler.
Tu sais, il y a un truc, hein, tous les sélectionneurs, Fabien a réussi à reconstruire un groupe, un état d'esprit et à engager le collectif autour d'un contrat de confiance. Il a redonné l'amour du maillot, de l'amour de la cocotte si cher à Serge Blanco. Ce que les précédents sélectionneurs n'avaient pas réussi à faire. Et on s'aperçoit que dans le parcours des sélectionneurs, il y avait toujours une première année qui a été très très positive. Et tout nouveau, tout beau, tout le monde adhérait au discours. Et à la moindre erreur de parcours, les groupes, ces dernières années, hein, depuis 10-15 ans, ont toujours fait payer aux sélectionneurs ce rapport de force. Et le sportif, enfin les équipes, ont toujours repris le pas. Si Fabien n'arrive pas à gérer cette période, il pourrait lui aussi être fragilisé et faire comme les autres.
Il y a aussi un homme dont on ne parle pas, c'est Raphaël Ibanez, qui aura un rôle aussi important, parce que c'est celui qui fait le lien entre nous, les gens du grand public à l'extérieur du groupe, c'est et vrai, le groupe. Et je pense que son discours à lui aussi, qui est souvent carré, très clair, la flèche du temps, tout ça, ça va être très important dans les jours qui viennent, et ça peut être un soutien pour Fabien Galtier au sein du groupe.
Autre conséquence de cette malheureuse histoire, les rapports entre les clubs et la Fédé sont de nouveau très tendus, comme souvent, direz-vous. Les clubs ont eu du mal à avaler de voir revenir leurs joueurs plombés par le virus, et voilà qu'on leur demande maintenant un nouvel effort pour essayer de placer ce France-Écosse qui a donc été reporté. Plusieurs dates sont à l'étude, aucune solution n'est parfaite, c'est un vrai casse-tête auquel sont confronter les dirigeants des destinations, Jeff.
Hein. Ouais, c'est compliqué parce qu'il faut trouver une nouvelle date. Il y avait une première possibilité, c'était le 9 mars, c'est-à-dire pendant la période internationale, juste avant le France-Angleterre. C'est un match qui arriverait très vite. Ça n'arrange pas franchement les Écossais, puisque eux, ils veulent laisser passer du temps avant d'affronter des joueurs français qui ont eu le Covid. Les Français, eux, ça les arrange pas fondamentalement non plus. La solution privilégiée par la Fédération française de rugby, c'est de jouer fin mars. Et c'est vrai que la dernière tendance, ce serait de jouer soit le jeudi 25, soit le vendredi 26. Il y a discussion entre la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby, certains clubs traînent un peu des pieds et on les comprend, c'est normal, puisqu'il faudrait libérer des joueurs alors qu'il y aura une journée de championnat, la 20e, et surtout vu comment ça s'est passé ces derniers temps et vu les relations actuelles entre le staff du 15 de France et les staffs de clubs, c'est sûr que ça peut être un peu tendu.
Il y a une journée de Coupe d'Europe la semaine suivante, le 26 mars. Donc, messieurs, la meilleure date pour vous, effectivement, le 26 mars, ce serait pas mal.
25, mais bon, ça serait très bien, ce serait mieux que juillet ou octobre, forcément.
Ouais, il faut gagner contre l'Angleterre et vite clôturer ce tournoi. Voilà. Mais après, je comprends la appréhension des clubs. On avait dit un groupe à 31, on se retrouve avec les 7 istes. On avait dit pas de changement dans le groupe des 31. Antonio rentre à la place de je sais plus qui. Enfin, voilà, il y a eu tellement d'incompréhension depuis un mois que les clubs sont très, très...
réticent à libérer tous leurs joueurs. Alors, bonne nouvelle pour le 15 de France, il y en a quand même une, c'est que si le match se déroule fin mars, on pourra récupérer tous les joueurs qui étaient blessés.
C'est génial.
Je pense à Ntamack, à Vakatawa et compagnie.
Ntamack et Vakatawa pourraient postuler dès l'Angleterre.
Ils sont contents, les Écossais.
Ouais, oui, c'est ça. Mais...
ils pensaient rencontrer une équipe de France avec 17 mecs sur le carreau.
Mais c'est pour ça qu'ils voulaient jouer à tout le monde au début.
Mais est-ce qu'on pourrait pas se poser la question qui, pour respecter l'équité sportive,
on fait pas jouer à Vakatawa ni
Ntamack? On prend les 31 qui étaient présents.
Pierre, si tu veux respecter l'équité sportive, la France a perdu sur tapis.
Bien sûr, mais c'est ce que je dis depuis 15 jours. Hein. Je pense qu'on n'aurait jamais dû.
Ne soumets pas l'idée aux Écossais, s'il te plaît.
Non, mais en vrai, moi je trouve que c'est dégueulasse pour eux. Mais bon, parce qu'en plus, eux, ils vont peut-être perdre 1, 2, 3, 4 joueurs d'ici le match et ils n'ont pas le même vivier que nous. Hein. Si par exemple un Finn Russell se pète, c'est pas tout à fait la même chose derrière. Nous, on a la chance d'avoir la latitude d'avoir 50 joueurs, c'est pas du tout le cas de ce pays-là. Moi je trouve ça dégueulasse et j'espère que le groupe des 31 sera pas trop changé. Et même si Ntamack, Vakatawa et toute la clique sont de retour, qu'on aura la décence de pas les prendre, même si c'est les meilleurs. J'espère.
Monsieur le producteur, coupez son micro, il va nous priver d'un grand chelem, ce mec.
Ouais, non, mais c'est fou, lui. Faut le virer. On va t'envoyer à la porte, hein, fais gaffe. Hein. Ça va mal se passer pour toi. Voilà, suite au prochain
épisode. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que contre l'Angleterre, on aura quand même une belle équipe aussi.
Ouais, c'est clair.
Ouais, et alors que les Anglais, justement, on va en parler, n'ont pas une équipe très performante. Dans ce triste week-end où nous avons donc été privés de ce France-Écosse, le rayon de soleil est venu de Cardiff, où les Gallois ont donc fait chuter l'Angleterre pour la deuxième fois dans ce tournoi, et pas qu'un peu, 40-24, une véritable tôle qui accable toute l'Angleterre et fait sourire tous les autres pays, dont évidemment la France. Et notre ami Pierre Amiche, trop content de voir l'Angleterre battue. Tiens, justement, c'est l'heure de la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
Pierrot, comme tout bon Français passionné de rugby, tu avais donc le sourire samedi soir après ce match et cette victoire galloise.
Eh ben ouais, aujourd'hui je suis heureux, n'en déplaise au pisse-vinaigre comme Denis, à la meute à l'affût des sans-dents comme Christophe et malgré les petites fouines comme Manu Jeff qui cherchent à déstabiliser un président exemplaire qui a dit non à 5 millions d'euros. Et bien malgré tout ça, moi je trouve que c'est un week-end radieux pour le rugby tricolore. Déjà l'équipe de France est encore en course pour le grand chelem. On n'a pas un blessé ce week-end. La bulle se porte nickel. Le ministre a même pas retiré l'agrément pour le tournoi. Et le savoir-faire Madin Marcoussi a encore éclaboussé le monde entier. Et ouais, après le Covid manager qui manage rien, après le coach qui sort de la bulle parce que la bulle c'est chiant, après le président qui voit pas où est le problème de tout ce merdier, après les joueurs qui mangent des gaufres et font des selfies, et ben cette fois on change de registre. Mais attention, on reste dans l'excellence. C'est un arbitre qui marche sur l'Angleterre à lui tout seul et il est de chez nous celui-là. Un week-end radieux, je vous dis. L'Angleterre s'est fait rouler dessus et probablement voler. Et ça déjà c'est rigolo. Et voir l'Angleterre perdre c'est déjà marrant. Mais quand ils perdent alors qu'ils font le meilleur match depuis un an et demi, bah là c'est vraiment très rigolo. Mais la cerise sur le gâteau, hein, c'est que le match bascule sur deux décisions. Un en avant, en arrière et une pénalité vite jouée par les Gallois alors que l'arbitre avait demandé au capitaine de parler à ses joueurs. C'est ça le savoir-faire à la française. Vous avez brûlé Jeanne d'Arc, on accorde un essai aux Gallois. Vous nous avez pété les glaouis à Azincourt, on vous envoie Gahuser, le Don Diego de la Vega tricolore, on n'est pas là pour blaguer. En plus, il les tue, après il dit, bah pardon, j'ai fait une connerie, moi je l'adore, je vais remplacer mon poster de Wayne Barnes, l'arbitre qui voit pas les en avant, par le justicier landais. Alors les profanes vont me demander, ouais, pourquoi est-ce que t'es heureux quand l'Angleterre est père? Ben parce que comme vous, j'ai été élevé dans la haine de l'autre, alors il n'y a pas vraiment besoin de raison, et puis peut-être parce qu'au fond, il y a un peu de jalousie. Bon, j'ai quand même fait une liste des trucs. Ils sont arrogants, provocateurs, ils ont un humour de merde, ils sont champions du monde, ils ont un problème avec l'hygiène bucco-dentaire, ils ont des problèmes de cheveux, ils viennent les acheter nos maisons dans le Lot juste pour nous faire chier, ils tentent des drops tout le temps, et je crois même qu'ils sont un petit peu cons sur les bords. Non, c'est vrai, parce qu'un pays dirigé par Thatcher et Boris Johnson, le doute est permis. Et peut-être que globalement, je les déteste parce qu'ils partent du principe qu'ils peuvent pas perdre légalement dans un sport qu'ils ont inventé. Alors quand ils perdent, on réfléchit pas, on applaudit, t'aimes la France, tu es le 15 de la rose aussi fort que possible. Je conclurai avec les mots d'un génie, Eric Champ. L'anglais, il te regardait tellement de haut que tu avais forcément envie de le farcir. Mission accomplie grâce à Pascal Gahuzère.
Merci, monsieur Amiche. Vous avez été parfait. Bravo. Messieurs, est-ce que comme Pierre, vous avez souri samedi soir en coup de sifflet final? Denis, est-ce que quand l'Angleterre perd, ça te file la banane?
Non. Moi, j'ai envie de voir un bon match de rugby. C'était agréable à voir. J'ai trouvé les Anglais pas si mauvais que ça, très indisciplinés. Et puis des Gallois féroces. Ils ont retrouvé une défense de fer qu'ils avaient, qui s'est un peu perdue ces derniers temps. Là, ils sont redevenus très compétitifs. Voilà, je crois qu'ils méritent leur victoire, mais les Anglais n'ont pas été si mauvais que ça, je le répète. Même si le Farrell est en train de marquer un peu le pack.
Ouais, de voir son visage après chaque défaite, c'est quand même assez jouissif, non?
Oui, Farrell a été bon gars quand même après, parce qu'il a dit qu'il y avait plein d'explications à la défaite, que c'était pas juste Pascal Gahuzère. Ça n'a pas empêché les tabloïds de le défoncer littéralement et de le faire passer.
Non, mais t'as vu la VAR, on dit la VAR ne sert à rien.
Bah, ça dépend de l'interprétation, en fait.
Oui, ben là, quand même, moi, devant ma télé, l'interprétation était bonne.
C'est pas celle qui me fait le plus c'est quand même quand il dit au capitaine, parlez à vos joueurs, ils se réunissent sous les poteaux, là, les Gallois jouent vite transversal, il y a 15 Anglais sous les poteaux,
c'est vrai, c'est énorme.
Une belle baisse, par contre. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait que Pascal Gahuzère s'est excusé en disant, pardon, c'est vrai, j'ai peut-être fait une connerie.
Il sera plus mire de traverser la Manche, notre ami Gahuzère. Est-ce que ça fait partie du folklore, quand même, le fait de détester les Anglais? Manu, on aime bien, finalement, on adore les détester,
l'histoire
et eux aussi.
Ouais, ça fait partie de l'histoire, ouais. De l'incompréhension, ouais. De notre incapacité à comprendre l'anglais pendant des années et de se dire qu'on était toujours volé. Finalement, c'était une valeur refuge pour nous, hein, supporters français. On se disait, on n'est pas bon, on gagne pas. Et puis, mais finalement, c'est pas notre faute. On s'est fait voler par l'arbitre et les Britanniques nous en voulaient toujours. Ouais, c'est
un cliché.
Franchement, aujourd'hui. J'ai pas été satisfait de voir l'Angleterre perdre ce week-end.
T'aimes pas la France?
Je me suis dit que ça va aller nous priver d'un crunch à couteau tiré. Après, c'est aussi la certitude de voir un très très beau match contre le Pays de Galles pour ce qui devait être la finale du tournoi. Malheureusement, il y aura France-Écosse derrière. Mais ils ont quand même mieux joué. On a retrouvé une équipe d'Angleterre qui correspondait à ce qu'on attend d'elle. Elle était plus au niveau. Après, beaucoup de fautes. Et je suis désolé, hein, c'est facile de taper sur l'arbitre français. Mauro Itoje qui fait 6 ou 7 fautes. Dans le match.
Ils ont été très indisciplinés, comme jamais d'ailleurs.
Donc c'est pas l'arbitre.
Ouais. Juste un mot justement de cette Angleterre qui sera le prochain adversaire de l'équipe de France le 13 mars prochain. Des Anglais qui seront évidemment sous pression. Moi, cette bête blessée, elle n'est pas pour me rassurer. Hein, surtout face à une bête malade comme l'est le 15 de France quand même. Hein. La bête blessée c'est face clair. À la bête malade.
Non, mais ils ont de beaux joueurs, attention, hein, les Anglais.
Ils n'ont pas non plus perdu tout leur rugby.
Ils n'ont pas perdu, ils vont vouloir gagner contre la France après 2 défaites.
Eddie Jones, il a peut-être un peu la pression.
Et puis Eddie Jones, elle a forcément la pression.
On craint rien, il y a Eddie Jones en face, Vincent a dit que c'était une pompe.
Surtout, Christophe, c'est que le contexte d'un France-Angleterre, ça ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire que c'est quand ils appellent ça le crunch chez eux, c'est l'Angleterre-France plutôt, mais ça ressemble pas.
Tu l'as ressenti, toi, Denis, quand tu jouais?
Ah oui, totalement. Oui. Non, mais vraiment. Mais je l'ai ressenti, mais non seulement tu le ressens sur le terrain, mais tu le ressens avant, bien avant. C'est-à-dire la semaine qui précède cet événement, c'est un autre événement. C'est pas un France-Écosse, c'est pas un France-Irlande, c'est un France-Angleterre, c'est comme ça. Et puis, je crois aussi qu'il y a les médias qui aussi façonnent embellissent le crunch.
C'est la sauce, ouais, ça c'est sûr.
Un mot des Gallois quand même, hein. Moribond à l'automne ressuscité cet hiver. Franchement, ça valait une cote. Vous les croyez capables d'aller chercher le grand chelem après avoir décroché la triple couronne?
Ah, mais ce sera très. Le match le plus dur pour moi, c'est France-Galles.
D'accord.
Pas loin du compte.
Alors que c'est vrai que c'était mauvais.
Alors qu'on pensait que ça serait...
On les a farcis crépis.
Moi, je pense que c'est un mirage. Je vous le dis en 5 secondes, je pense que c'est un mirage. Deux fois face à une équipe réduite à 14, ils ont un jeu monolithique. Pivac n'a pas fait de miracle. Je pense pas qu'ils aient des joueurs qui soient vraiment au-dessus
pas 14,
du lot. Non, l'Angleterre, non, mais c'était face à une équipe d'Angleterre qui était quand même en recherche de sensations, qui a tenté quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis un an et demi. Jouer au rugby, c'est quand même assez rare. Et le Pays de Galles, je le pense humblement, pour moi, c'est un mirage. Voilà, je
ils
pense
vont
que
chez nous,
Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais bon, on en reparlera.
Ils vont venir chez nous, ils vont faire que défendre.
Oui, que défendre. Et en plus, il y a une belle défense agressive.
Pas si facile que
attention.
Ça.
Attention. Bon, il faut appeler Pascal Gahuzère pour arbitrer ce.
Je sais qu'il n'a pas le droit.
Non, il a le droit. Allez, tout de suite, un petit côté fermé avant de terminer ce entre les poteaux.
RMC, entre les poteaux, côté fermé.
Avec cette belle interview ce matin dans Midi Olympique, Manu, de Serge Blanco, interrogé en tant qu'ancien président du Biarritz Olympique, et comme tous les amoureux du club basque, est très inquiet. Blanco qui ne croit pas que la mairie de Biarritz acceptera le projet Aguilera, a priori, et qui du coup pense que le BO va changer de ville. Est-ce que c'est un coup de bluff selon vous? Alors je sais que Jeff aussi a beaucoup enquêté sur le dossier. Comment vous croyez que cette histoire va se terminer, Manu?
J'en sais rien. C'est pas Serge Blanco qui est aux commandes du BO aujourd'hui.
Mais on sent qu'il est quand même influent, hein, qu'il reste très proche
de Jean-Baptiste Aldiger, le président, comme il a toujours été proche des dirigeants du BO, parce que c'est son club, parce que c'est sa famille, parce que c'est son sang. Donc il lâchera pas l'affaire, il sera toujours présent. Et de voir Serge qui dit s'il faut, on partira ailleurs, et pourquoi pas à Saint-Sébastien, comme il s'est dit.
Pour partir ailleurs, il faut s'entendre avec la fédération.
Et il faut s'entendre aussi.
Ce qui n'est pas fait du tout, ils n'ont pas encore vu la fédération.
Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que j'en sais rien. Il peut y avoir cette volonté. Après, j'imagine mal quand même la mairie de Biarritz laisser partir l'un de ses plus beaux fleurons. Il n'y a pas que l'hôtel du Palais. Mais les surfeurs à Biarritz.
Moi, ce que je ressens, c'est que je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Hein. Moi, je ne le vois pas autrement. Et que
c'est un coup de pression.
C'est un coup de pression. Alors que le projet est beau, que le projet. Puis quand la maire de Biarritz dit qu'elle n'a pas besoin du rugby professionnel à Biarritz, je suis désolé. Respectez un petit peu l'histoire de ce club et l'identité du club qui est cher à la ville.
Et bien là aussi, suite au prochain épisode. Merci messieurs.
Merci.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine en espérant que notre feuilleton « Mais qui a donc percé la bulle ?» sera terminé. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine entre les poteaux.